Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom.
Le retour des empires.
Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
Aujourd'hui, les techno-empires avec Asma Mala. Asma Mala, bonjour.
Bonjour. La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes. La France refuse d'entrer dans le paradis des robots. Et d'ailleurs, ce paradis n'existe pas. Dans son discours d'inauguration à la conférence de San Francisco, le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, a déclaré textuellement « Avec la brutalité et la destruction en rythme croissant, la guerre moderne, si nous ne réussissons pas à la contenir, détruira, en dernière instance, toute la civilisation. » Or, je le demande aux imbéciles, n'est-ce pas la condamnation du système et de la civilisation, fondée sur le primat des formes les plus grossières de l'action, que de telles paroles aient pu être prononcées, notamment par ce Truman, politicien d'affaires, sans race, sans passé, sans culture, et qui devrait avoir dans la civilisation des machines une confiance aveugle ? Hélas, nous voyons bien se perfectionner chaque jour les instruments et les méthodes de la destruction. Mais que trouvons-nous à opposer à la guerre, sinon la guerre elle-même ? Oh, je sais bien, il y a les conférences et les traités. Mais les imbéciles eux-mêmes comprennent que le perfectionnement de la guerre entraîne logiquement l'affaiblissement et la décadence des méthodes pacifiques de la diplomatie. Chaque invention nouvelle accroît le prestige de la force et fait décroître celui du droit. Extrait du livre « La France contre les robots » Georges Bernanos, 1947.
Asma Mala, rebonjour.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS, l'école des hautes études de sciences sociales. Vous êtes spécialiste donc, disais-je, des enjeux politiques et géopolitiques de la tech et de l'intelligence artificielle. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage récent qui s'appelle « Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats ». Alors là, on vient d'entendre un texte qui date de 1947, donc de Georges Bernanos, « La France contre les robots ». C'est assez, visionnaire, comme ça résonne énormément avec votre pensée. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces quelques mots de Bernanos, que vous citez d'ailleurs aussi dans votre ouvrage, mais dans un autre texte.
un autre ouvrage. Ça m'inspire une seule chose, parce qu'il y avait aussi, en introduction, les propos, si j'ai bien compris, de Truman. C'est la répétition infinie de l'histoire. Avec cette, quand même ce constat, alors je ne sais pas si on est nombreux à le partager, je crois que oui, qu'on n'apprend rien, mais strictement rien, des erreurs du passé. Et que, en fait, les époques se suivent, se succèdent, mais les questions, elles, restent assez éternelles et permanentes. Il y a une permanence dans le chaos et le bouleversement du monde. Et ce sont toujours les mêmes questions qu'on se pose. C'est un peu la même question sur l'intelligence artificielle, mais autrefois, ça aurait été le golem ou Frankenstein. Et il y a cette chose de très complexe, la plus complexe qui soit d'une certaine façon, qui n'est pas tant la guerre ou la paix, qui n'est pas tant la machine ou les robots, mais nous, la singularité humaine, la
nôtre. Et notre liberté, justement, là-dedans, il y a quelque chose qui est patent dans votre texte, c'est cette course menée par la tech qui, en fait, est toujours contradictoire avec la démocratie. Pourquoi technologie et démocratie semblent ne pas pouvoir être de bons compagnons ?
En fait, il faut reformuler. Ce n'est pas tant l'opposition technologie-démocratie qu'il faudrait articuler, mais plus exactement la privatisation de la technologie. Et je m'explique. Le propos que je tiens dans Technopolitique, c'est de dire qu'on est en train d'entrer dans un nouveau siècle, le 21e siècle, et celui-ci est en train de se construire son socle civilisationnel, d'une certaine façon, son infrastructure socle. Ce sont les technologies ou les outils. Alors, l'erreur qu'on a faite et qu'on fait globalement collectivement, c'est toujours de les analyser en puzzle, c'est-à-dire en pièces détachées. Alors, un coup, c'est l'IA, puis l'IA générative, et puis les réseaux sociaux, la veille, et puis le lendemain, c'est le métavers qui probablement reviendra, pour des questions géopolitiques d'ailleurs, le cyber, etc. Bon.
les implants de Neuralink, Elon Musk. Donc, à chaque année, son lot de nouveautés technologiques ou d'innovations qui vont cristalliser une hystérie collective. On va en parler pendant un an ou deux maximum, puis après, hop, on va passer à autre chose. Et moi, ce qui m'intéressait, et c'est en fait tout l'un des fils directeurs ou le fil rouge du livre, c'est non pas de les prendre en pièces détachées, et ça va répondre précisément, vous allez voir, à la question quand j'aurai attaqué ma chute. Mais, mais c'était pas de les prendre en silos, par morceaux éclatés, mais d'essayer de comprendre quel était le système qui était en train de se construire, de se mettre en place et de s'agencer quand on les mettait en lien, c'est-à-dire quand tous ces outils-là font système. Et quand ils font système, on se rend compte que ce sont des infrastructures, qui sont même parfois, souvent, de nature publique. Un réseau social est un espace public. Et en même temps, quand on continue à analyser, la plupart de ces infra-là sont en fait aux mains de quelques acteurs qui se comptent mais littéralement sur les doigts d'une main et qui sont américains. Et on peut les citer. Et donc, il y a cette privatisation. Et une fois qu'on a dit privatisation d'infrastructures qui sont civilisationnelles, on n'a pas encore fini l'analyse. Ces géants technologiques, ces big tech, qui sont parfois très incarnés, comme Sam Altman, patron d'OpenAI, ou Elon Musk avec toute sa galaxie X-Corp, ont des idéologies. Ils ont une vision du monde. Ils ont un projet politique. C'est hyper intéressant d'écouter leurs discours, de lire et d'analyser simplement leurs discours, même parfois leurs tweets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est absolument génial, et je sais que ça fait frémir les chercheurs traditionnels, mais les tweets sont aujourd'hui une source de documentation. Elon Musk, quand il communique, et c'est de la communication, et c'est de la docu, et c'est le projet politique qui est parfois antidémocratique qui lui pose problème.
Vous venez donc de parler d'infrastructure, mais il y a aussi une autre dimension enfin, qui transparaît dans votre ouvrage, mais on va aller par-delà votre ouvrage, puisqu'on est dans le retour des empires, et précisément, dans l'aspect tech, il y a cette dimension finalement d'empire dématérialisé. Comment cela s'est mis en place, en fait, cet impérialisme de la technologie ? Qui joue par le truchement de grandes boîtes ou de grandes entreprises, mais comment ça fonctionne en fait ? C'est comme s'il y avait une sorte d'empire sous l'empire, soit souterrain, soit dans un cloud géant. Comment c'est venu tout ça ?
Alors la première chose, c'est qu'on a l'habitude de dire que ce sont des systèmes dématérialisés, virtuels, impalpables, le fameux cloud, qui veut dire en anglais nuage, donc cette espèce de noosphère, comme ça, qui surplomberait, qui flotterait, mais vraiment lors du flottement au-dessus de nos têtes. En fait, non, ce sont des économies qui sont ultra-industrialisées, hyper-industrialisées, ultra-matérielles. Et ça commence d'abord par les réseaux de connectivité, les câbles sous-marins, la fibre, les satellites, etc. Donc les réseaux télécom. Donc c'est d'abord de l'industrie. Et c'est d'autant plus de l'industrie qui est encapsulée dans une époque, dans son contexte historique. Et donc on retrouve, si vous voulez, mais poussé à son paroxysme, à peu près tous les fonctionnements que l'on a connus du XXe siècle, de espèce d'hypercapitalisme, c'est-à-dire les fractures nord-sud, l'exploitation du nord par le sud. Encore faudrait-il d'ailleurs redéfinir ce qu'est le nord et ce qu'est le sud. Par exemple, l'Europe est en train de se périphériser totalement de ce point de vue-là, bloquée entre les deux techno-empires que sont les États-Unis et la Chine. Donc le premier élément de réponse, c'est que c'est d'abord des infrastructures au sens solide. Les data centers, c'est vraiment des lieux physiques qui se touchent, qu'on peut bombarder dans le cas d'une guerre. La Russie, par exemple, ou ce qui se passe en Ukraine. Donc, ça, c'est la première des choses à avoir en tête. La deuxième chose, vous parliez d'empire ou d'empire technologique. Les géants technologiques, oui, sont en train de manger, si vous voulez, à peu près l'entièreté de la chaîne de valeur, disons, de connectivité, ou même si on fait une focale sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement présents dans les câbles sous-marins, les satellites, évidemment, on en a parlé avec Musk, mais aussi Bezos, et pas uniquement. Et vous avez plein de petites start-up qui sont dans cet écosystème-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des entités qui sont arrivées comme ça, ex nihilo, à l'orée des années 2000. Non, elles sont quand même backées, elles sont quand même derrière assez sous-tendues par l'État américain. Le projet d'Internet, c'était l'ARPANET, c'était quand même la DARPA dans les années 60. 2015, Obama, et moi j'avais trouvé ça absolument fascinant quand j'étais tombée sur l'information. Donc on est sous l'administration Obama, et donc en 2015, il ouvre quand même le bureau de représentation du Pentagone à la Silicon Valley, qui était chapeauté à l'époque par Ash Carter. Et donc aujourd'hui, l'un des principaux marchés de SpaceX de Elon Musk, c'est la NASA. Starlink en Ukraine, Elon Musk toujours, le Pentagone est forcément, d'une façon ou d'une autre, dans la boucle quelque part. Microsoft en Ukraine, dans les questions de cyberdéfense, oui, c'est des actions qui sont aussi coordonnées avec le gouvernement ou l'administration américaine. Donc, en fait, ce ne sont pas tellement, pour terminer ma réponse, en tout cas, moi, c'est un peu l'idée que j'ai et que je défends. En tout cas, c'est pas tant des nouveaux États dans une espèce de monde post-westphalien où il n'y aurait plus de frontières, plus rien, etc. Une espèce de cyberespace globalisé. Déjà, un, le cyberespace est tout sauf globalisé, est totalement fragmenté. Vous avez la Chine qui est derrière son firewall, la Russie qui se déconnecte, l'Iran qui s'est construit dans son propre écosystème. Puis nous autres, l'Occident, à se demander quelle va bien être notre opposition politique, quel est notre modèle politique face à ça ou là-dedans. Mais surtout, ce n'est pas du tout la fin du deal, disons, westphalien. C'est au contraire le retour des États forts dans une espèce de relation très ambiguë, très ambivalente entre Big Tech et donc ce que j'appelle les Big States, c'est-à-dire les grands États ou ce que vous allez appeler les empires.
Et comme vous le dites, c'est l'Europe, par exemple, est totalement pris en étau entre la Chine et les États-Unis. Mais précisément, comment se fait-il qu'il y ait un si fort retard en Europe par rapport à cela, en fait, puisqu'a priori, il y a 30 ou 40 ans, quand tout ça a commencé, même dans les années 60, on parlait d'Internet, quand tout cela a commencé à être mis en place et pensé, a priori, l'Europe n'était pas véritablement en retard. Que s'est-il passé pour que l'Europe soit hors-jeu à ce point-là, dans ce jeu d'empire ?
Il y a plusieurs choses. La construction de l'Europe, si on est vraiment à échelle Europe, donc pas à échelle nationale, et c'est bien d'ailleurs toute l'une de nos difficultés, c'est d'articuler les deux échelles d'action. Mais si on reste sur vraiment le niveau européen, la première des choses, c'est que l'Union européenne, et ça ce sont des analyses maintenant qu'on connaît par cœur, elle ne s'est pas construite dans une stratégie de puissance, elle s'est construite pour sortir de la guerre et pour éviter qu'on se refasse des guerres fratricides. Donc c'était l'enjeu d'essayer d'établir, de trouver les conditions, disons, de la paix sur le continent. À partir de ce moment-là, la solution qu'on a trouvée, qui va être derrière renforcée par toute la doctrine de la mondialisation des années fin 80-90, c'est de dire la seule façon, si vous voulez, de maintenir les gens en lien, donc en paix, obligatoirement, presque à l'insu d'eux-mêmes, et au-delà même des questions identitaires, culturelles, etc., c'est d'en faire un méga-marché. C'est-à-dire liberté de circulation des marchandises, des personnes, etc. Et ce faisant, donc, on a construit, en effet, le marché. Et ça, ce sont les traités européens. Le problème, c'est que ça a fonctionné un temps. Mais 1989, début 1990, on a cru que ça allait être la fin de l'histoire, Fukuyama, que la mondialisation allait renforcer tout ça, et que surtout, ça allait évangéliser les autres pays à nos modèles démocratiques, libéraux, occidentaux. Et que nenni, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est simplement fragmenté. On a, en fait, sur-augmenter nos interdépendances économiques, je parle de l'Europe. Donc aujourd'hui, elle est prise en étau entre, en fait, la Chine et les États-Unis, avec des dépendances et des interdépendances, les deux à la fois, économiques, technologiques, bien sûr. S'étant construite comme marché de consommateurs, elle ne s'est donc pas construite, contrairement aux deux autres, comme une puissance, la fameuse Europe-puissance, qui n'est aujourd'hui que de la, pardon de le dire comme ça, aussi brutalement, mais qui n'est que de la com-politique, pour l'instant encore. Donc ça, ça a creusé un retard, un énorme retard, et notamment industriel.
Ce qui signifie, au passage, que la dimension big tech avec les big states est totalement basée sur un ancrage de force et de guerre, quoi, dans l'esprit. Il n'y a absolument rien de pacifiste, comme la communication de ces grands groupes-là passe leur temps à faire. Donc il y a une sorte de paradoxe de com' qui est terrible, en fait.
Vous avez absolument raison. D'une part, les big tech sont, à mon sens, des bras armés technologiques de leur État. Vous remarquerez d'ailleurs que les big tech ne naissent que à partir de big state. Et donc, parce que l'Europe n'a pas construit cette stratégie de puissance-là, et je fais un peu la distinction de Raymond Aron, c'est-à-dire pouvoir n'est pas puissance. Les géants technologiques, ou les acteurs technologiques, disons stratégiques, ont une puissance, une capacité de projection de puissance, du soft et du hard power, par exemple. Mais le pouvoir final, la souveraineté finale, ça reste celle de la loi, donc celle de l'État. Mais sur la question du retard et pourquoi ce retard européen, donc oui, il y a eu le manque de vision, mais parce qu'il y avait cette urgence et cette obsession, disons, de la construction de la paix. Et puis aujourd'hui, la réponse la plus sophistiquée qu'on oppose est une réponse réglementaire. C'est-à-dire on va mettre des règles, des normes, pour expliquer aux acteurs extra-communautaires qui ont une réelle puissance, parce qu'ils captent, ils quadrillent nos usages. Et quand je dis nos usages, ce n'est pas simplement nos usages personnels, mais aussi militaires, industriels, etc. Eh bien, on essaie de leur dire, et c'est un signal politique, bah, au sein de nos frontières, vous allez respecter nos règles. Alors, encore faudrait-il avoir les moyens de faire respecter nos règles. Mais bon, disons que d'un point de vue du signal politique, c'est un peu l'idée, par exemple, de la salve de paquets réglementaires qu'on a eu ces dernières années sous Thierry Breton au niveau européen, donc Digital Service Act, Digital Market Act, etc., IA Act, etc. Mais il nous manque toujours la dimension proactive, c'est-à-dire techno-industrielle, hors l'économie, et en fait, en termes de power politics, en termes de politique de puissance, le ferment qui fait que vous avez quelque chose à mettre sur la table le jour où vous avez besoin d'être dans un rapport de force avec vos alliés.
Le crépuscule d'un monde qu'on avait rêvé sage et lisse force les démocraties occidentales à inventer leur modèle, à redéfinir leur place. Or, la question technologique est au cœur de ces rapports de force. Les rivalités se cristallisent autour d'une compétition technologique à couteau tiré entre Chine et États-Unis. Intelligence artificielle civile, reconquête de l'espace, climate tech, chiffrement et post-quantique, armes autonomes et systèmes d'intelligence artificielle à usage militaire. La compétition se fait à tous les niveaux, à coups de pression, de coercition, de coopération, d'alliances nouvelles, de menaces. En étau entre la Chine et les États-Unis, l'Europe, l'Inde et la Corée du Sud et d'autres encore aspirent à en être, se positionnent pour jouer leur partition dans la recomposition du monde. Extrait de Technopolitique de Asma Mahala.
Voilà, Asma, on vient d'écouter un passage de votre texte. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'émission.
J'en suis honorée, Stéphane, merci.
Donc là, on vient de bien l'entendre. Justement, la dimension militaire, elle est totalement presque sous-jacente en réalité à toute cette big tech. Mais justement, une question aussi que vous abordez au fur et à mesure dans votre ouvrage, mais j'aimerais avoir plus de précision. Est-ce qu'il est possible, finalement, d'avoir une industrie technologique moderne de progrès?
Tout dépend comment on va définir la notion, le concept de progrès. Aujourd'hui, tel qu'il est compris, c'est-à-dire sous son prisme technologique, c'est le progrès, c'est l'innovation d'une certaine façon. Donc c'est une espèce de course à l'échalote de l'innovation comme fin en soi, l'innovation pour l'innovation. Et d'ailleurs, simplement pour rebondir sur la question d'avant, l'Union européenne et même la France font cette erreur fondamentale d'être toujours dans cette posture de suivisme, de follower des technologies américaines ou chinoises, plutôt que d'essayer de trouver leur identité propre. Et ça rejoint donc votre question. Si en revanche on se dit le progrès, c'est plutôt un progrès de la connaissance, de la justice, de l'égalité, ou en tout cas un décroissement des inégalités, si le progrès c'est celui des libertés, si le progrès c'est peut-être cette mise à jour de notre logiciel démocratique, si ça c'est le progrès, alors à ce moment-là la technique, et je dis bien technique et non plus technologie, pourrait en être un chemin possible. Et c'est un peu tout le problème qu'on a, c'est que cette privatisation, mais aussi ce continuum entre les États et les géants technologiques, empêche, si vous voulez, toute pensée politique un peu novatrice, c'est-à-dire prendre les outils pour simplement ce qu'ils sont, au profit de quelque chose d'autre. Qu'est-ce que pourrait être cette autre chose quand, par exemple, prenons l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle vous sert à faire quoi, ChatGPT? Dites-moi, Stéphane.
Elle permet d'aller plus vite dans la recherche d'informations, etc., par exemple.
Par exemple, résumer des mails, faire des sum-ups de textes, rédiger des trucs, trouver la recette de la tartiflette, se demander quel est le sens de l'humanité face à la machine.
C'est un moteur de recherche accéléré, quoi.
Super plus, une espèce de petit bot personnel. OK, ces mêmes technos-là, potentiellement, si elles sont mieux pensées, elles pourraient... A contrario, être mise au service de quoi? Du progrès de la science, de la médecine, peut-être même de la question climatique, peut-être même de la réduction de l'écart entre le Nord et le Sud. Et là, c'est très globalisant ce que je dis, mais on a un énorme sujet avec l'Afrique, avec les crises migratoires, avec les prochaines guerres climatiques. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on est extrêmement flemmard sur la pensée politique de la technologie.
Oui, mais la technologie est extrêmement polluante en termes de... Vous l'avez dit, hein, c'est un objet industriel d'abord et avant tout.
Oui.
Donc, il n'y a pas une sorte de contre-intuition, là, entre capacité à régler le problème climatique et Le coût, oui. Le coût écologique de ces nouvelles technologies.
Alors, tous ces acteurs technologiques dont on parle, OpenAI par exemple, ou même Apple, etc., font énormément de communication, d'une part sur une espèce de greenwashing sur leur bilan carbone. Je le dis simplement pour neutraliser la critique d'ores et déjà, et puis après je vous réponds de façon plus, personnelle. Mais sur l'existant, donc, il y a toutes ces initiatives de greenwashing, disons, ou de réduction, si on veut être moins moralisateur de réduction de leur empreinte carbone, la première chose. La deuxième chose, dans le champ de l'intelligence artificielle, ou plus exactement des intelligences artificielles au pluriel, on essaye d'aller sur des modèles dits frugaux, de la frugalité. Mais, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. À la question de, est-ce qu'il y a une schizophrénie initiale, originelle, entre la course technologique et la question climatique ? Probablement que oui, mais je ne crois pas qu'on puisse faire sans la technologie. La question, c'est de se dire à quelle fin ? La technologie, pourquoi faire ? Bernanos disait la liberté, pourquoi faire ? La technologie, pourquoi faire ? Et de ce point de vue-là, si simplement on détaillait, on ciblait davantage nos vrais besoins et donc les vrais usages qui sont davantage collectifs que résumer des mails ou aller faire des recettes ou juste s'amuser sur ChatGPT, on aura peut-être avancé. Mais hélas, il y a des modèles économiques derrière.
Voilà, il y a surtout des modèles idéologiques. Et puis, ces empires nouveaux, en fait, ont des gourous. Une forme de gourou. Et ces gens-là, en fait, effectivement, depuis 10, 15, 20 ans, ont tendance à avoir leurs propres ouailles qui les suivent. Néanmoins, et notamment quand on voit l'accélération, parce que moi je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, enfin ce qui en émane, c'est cette notion de vitesse qui est en train de dépasser en fait la capacité humaine. Les gourous eux-mêmes, en fait, risquent de se faire dépasser eux-mêmes par leur propre... C'est le principe du golem. Hein. Je ne sais pas s'ils auront la capacité d'enlever ce qu'il faut pour arrêter le golem. Mais ma question est la suivante. Vous parliez de Bernanos, justement. Et dans le premier texte que nous avons entendu tout à l'heure, il fait la référence justement au temps en fait diplomatique, qui est un temps absolument nécessaire dans les relations humaines, interétatiques, voire interculturelles. Est-ce que cette course effrénée menée par les nouvelles technologies n'est pas en train de briser toute capacité de diplomatie, précisément, donc de relations humaines interétatiques ?
C'est une très très bonne question, parce qu'il y a même maintenant ce qu'on appelle, alors dans un certain champ, la tech diplomatie, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est toute la diplomatie autour des géants technologiques d'une part, donc qui ont même, depuis 2016, ça c'était le Danemark, des ambassadeurs dédiés aux géants technologiques. Et puis vous avez surtout la disruption, on va dire, des pratiques diplomatiques qui sont beaucoup sur le temps long, en coulisses, les rencontres, les discussions, les cénacles, etc., qui sont en fait percutées de plein fouet par les réseaux sociaux. Où est-ce que tout, aujourd'hui, dirigeant communique en premier lieu ?
Oui, sur Twitter, oui.
Donc, en fait, il y a cette immédiateté de la réaction, y compris dans le champ diplomatique. Ça ne veut pas du tout dire qu'en coulisses et en back, il n'y a pas une activité diplomatique classique conventionnelle. Évidemment que oui, et heureusement. Mais elle se fait maintenant en deux temps, sur deux couloirs et en fait dans deux espaces-temps. Et donc ça rend le travail diplomatique traditionnel, conventionnel, tel que on l'apprend à l'école, disons, un peu plus compliqué et percuté, parce que vous devez articuler deux temporalités en permanence, le temps long et le temps de l'immédiateté, parce que tout de suite, votre président a tweeté, parce qu'il fallait qu'il tweete, parce que l'autre a tweeté. Trump tweet, Zelensky tweet, Macron tweet. Et donc, quand la tête du gouvernement est compulsivement en train de tweeter, ça rend les choses parfois délicates, voire même parfois créer des incidents.
Et à l'inverse, de l'autre côté de la chaîne, je reviens sur ce que vous avez dit au début de l'émission, c'est que c'est extrêmement tangible, en fait, la big tech, c'est de l'industrie. Donc, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui travaillent.
Oui.
Et le fait est que ce qui est assez extraordinaire avec la mise en place de tous ces moyens technologiques et médiatiques, en réalité, parce que ça, au fond, quand on dit de high-tech, on pense surtout aux médias. Et c'est très, très lié quand même à tout ce qui est médiatique, quelle que soit d'ailleurs la forme du média. Ça, c'est quand même un effet extraordinaire, c'est que ça efface complètement le début de la chaîne. Est-ce que ça commence à être réfléchi et pensé ?
Évidemment que c'est réfléchi et
pensé. Parce qu'il y a une invisibilité absolue de ceux qui fabriquent les câbles.
Oui, oui. Alors, ce champ-là, si vous voulez, dans le champ... Moi, je ne suis absolument pas sociologue. Hein. Moi, je parle d'un certain angle qui est l'angle des sciences politiques. À cet égard, il faudrait vraiment en parler avec des sociologues, mais spécialisés sur les questions. Et cette question-là, c'est en fait, dans le champ de recherche, ce qu'on appellerait même le digital labor. C'est-à-dire que votre question est hyper importante parce qu'on a l'impression de machines, d'outils, de virtualité, de technologies, de choses complètement high-tech, donc avec, qui seraient totalement automatisées, etc. En réalité, il n'y a que des hommes et des femmes, mais d'ailleurs beaucoup d'hommes, de bout en bout de la chaîne. Des super penseurs, de ceux qui ont vraiment l'agenda et l'argent, Musk, Google, Altman, Thiel, enfin toute la clique de la Silicon Valley, vous avez de toute façon exactement la même logique côté Chine.
Hein. Ça fonctionne sur les mêmes ressorts. Sur l'état pur.
Vous avez des BATX qui sont... Disons, vous avez des BATX qui sont un peu les équivalents, plus des petits programmes type les Little Giants, vraiment des startups ultra spécialisées et ultra subventionnées, mais évidemment mis au pas par le PCC pour une question de contrôle social, très clairement. Le monopole du contrôle social ne doit pas être dilué vers des géants technologiques. On se rappelle de la disparition de Jack Ma, par exemple. Et donc, vous avez des humains du bout en bout de la chaîne, donc des penseurs, à vraiment ceux qui font les petites mains. Et ces petites mains sont souvent d'ailleurs, où ça ? Dans les pays du Sud. Vous allez les retrouver en Asie, vous allez les retrouver beaucoup en Afrique. OpenAI, quand ils ont, avant de sortir ChatGPT, il fallait, si vous voulez, éduquer l'algorithme ou les algorithmes à toute la, disons, le filtrage éthique ou moral même, d'aucuns diraient. Donc, comment est-ce qu'on va nettoyer pour éviter les appels au meurtre, la recette de telle bombe, etc. Bon. Ce travail-là de modération a été fait au Kenya. Mais pour quelque chose comme moins de 2 dollars de l'heure. Donc c'est en fait une réinterprétation de l'exploitation par les géants technologiques et par la technologie. Mais vous me direz rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est qu'en fait ça polarise davantage le monde.
Eh bien Asma Mala, merci beaucoup pour toutes ces explications. Pour conclure cette émission, je vous ai demandé de nous choisir un texte qui peut-être traverse votre expérience de chercheuse, etc., mais qui peut nous éclairer encore autrement sur toutes ces questions autour de ces nouveaux empires technologiques.
Et en fait, je pense que ça fera la bonne conclusion, parce que je ne suis pas allée sur ce terrain-là en vous répondant. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment sur les conseils de Laure Adler, il se trouve. Et donc, ça s'appelle « L'homme révolté » d'Albert Camus. Et c'est vraiment les toutes premières pages. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non ? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré » ou « jusque-là oui, mais au-delà non » ou encore « vous allez trop loin » et encore « il y a une limite que vous ne dépasserez pas. » En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté. Que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable.
Asma Mala, merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Le retour des empires.